Mais quand on est ensemble, hein, c'est comme encore une autre dimension, là. On est vraiment bénis ensemble. Pour ceux-là qui nous visitent ou qui n'étaient pas là les dernières semaines, on est dans une nouvelle série, la série sur la vie de David. Et ça s'intitule « David, un cœur qui bat pour Dieu ». Et puis, comme dans toutes les séries, j'essaie de vous amener un verset thème, mais là, cette fois-ci, c'est pas un verset, c'est un psaume au complet. Mais c'est le psaume le plus connu de toute la Bible, c'est le psaume 23. Puis, ça l'a béni, comme j'ai dit auparavant, des millions de personnes. Et combien de fois dans ma vie, à moi personnellement, ce psaume-là m'a réconforté. Et encore cette semaine, cette dernière semaine. Donc, le psaume 23, puis j'ai mis le psaume en image. Et puis, à chaque semaine, je vais enlever des paroles puis laisser juste les images. Comme ça va vous aider à apprendre le psaume, OK? Fait qu'à la fin de la série, on devrait tous être capables de réciter le psaume par cœur, OK? Donc, le psaume 23, c'est le psaume du bon berger. Et la première phrase, c'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » OK, bravo, bravo. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bravo! Bravo, super! Donc, cette semaine, juste avant de commencer le message en tant que tel, je vous fais un petit partage. J'ai bien aimé le partage à William, puis c'est merveilleux. Il est arrivé une situation au bureau, une femme que j'ai opérée, j'arrive, puis et je ne m'attendais pas à ça, elle n'est pas contente, elle est fâchée, elle n'aime pas le résultat, etc. Puis, ouf, c'est lourd, il y a une menace de poursuite, etc. C'est des situations pour un médecin qui sont bouleversantes, qui sont vraiment difficiles. Puis, durant la nuit, difficulté à dormir, et j'ai commencé à réfléchir au psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, là, le manquer de rien, là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est-tu comme la nourriture, le travail, conjoint, conjointe, bonne santé? C'est ça, à ces choses-là qu'on pense, hein? Mais regardez ce que David dit, la première chose qu'il dit. C'est pas ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et là, j'avais pas le repos. Tu comprends? J'avais pas le repos de l'âme. J'étais troublé. J'étais anxieux. Et là, j'ai dit, il me semble que Brian a dit quelque chose par rapport à l'anxiété, là, les 2 dernières semaines. Qu'est-ce qu'il a dit, Brian? Il a dit que l'anxiété, c'est quand on fait face à une situation puis on a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas répondre à la menace, de ne pas être capable de fournir ce qu'il y a à fournir. Et ça crée pas juste une peur, mais une anxiété. Là, je suis anxieux et je n'ai pas le repos de l'âme. Donc là, durant la nuit, je disais, Seigneur, je ne manque. J'ai peur de manquer quoi au juste là? J'ai peur, Seigneur. ça marche pas là, ça va pas dans mon âme, j'ai pas le repos, je suis anxieux, j'ai peur de manquer quoi là? J'ai peur de manquer de face, de perdre face, de perdre de réputation. J'ai peur d'être découvert comme un incompétent, d'être découvert comme quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait, d'avoir honte, d'être exposé comme un faux-né. J'ai peur de perdre face. Il y a une menace peut-être de perte financière aussi là-dedans. J'ai peur. Est-ce que, Seigneur, je vais vraiment manquer? Est-ce que mon identité va souffrir? J'ai peur de perdre l'honneur. Mais David dit, tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Le Seigneur me dit, tu es en honneur auprès de moi. Brian, est-ce que je t'ai jamais laissé manquer de quoi que ce soit? Donc, quand on parle, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là, David n'est pas en train de dire la bouffe, la nourriture, l'emploi, tout ça, là, ces choses physiques auxquelles on pense tout de suite. Il traite surtout des besoins de ton âme. Les besoins essentiels qu'on a tous. Besoin d'identité. Besoin de sécurité. Besoin de prospérité dans le sens que ton âme prospère. Ton âme est bien. Besoin de repos. On a chanté, j'ai bien aimé, quel repos, hein? Quel repos céleste. Oui, ça fait référence à un jour, mais c'est maintenant. Maintenant, Dieu veut te donner le repos de l'âme. Et ce repos-là, c'est auprès du bon berger Jésus. Prions. Éternel notre Dieu, on vient devant toi, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es le centre de l'univers, le Créateur, le Roi, le Tout-Puissant. Seigneur, ce matin, on veut se courber devant toi. On veut s'arrêter et écouter ta voix. Fais briller sur nous ta face, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Donne-nous par ton esprit sagesse et révélation pour te connaître intimement, Seigneur. Toi qui nous aimes, et qui a tout donné pour nous. Seigneur, sois notre berger ce matin, le berger de notre âme. Viens nous instruire, nous révéler ta personne. Viens écrire ton histoire sur les pages de nos cœurs, Père. Toi l'auteur de notre histoire. Toi l'auteur de notre espérance. Que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Nous te prions pour sa gloire. Amen. Donc, je vous invite à tourner maintenant dans 1 Samuel. On est dans la série David, un cœur qui bat pour Dieu. 1 Samuel, chapitre 16. On a vu à date comment Dieu avait choisi David, dans quelles circonstances de vie David se trouvait, comment Dieu s'est servi de ces circonstances-là pour se révéler à David comme étant son berger à lui. David était un berger, puis un jour, c'est comme une révélation dans le fond. Hein? Il s'est rendu compte, ces brebis-là ont un berger, moi aussi, j'ai un berger. L'Éternel est mon berger. Et il commence à faire des parallèles entre son travail de berger et comment Dieu prend soin de lui. As-tu un berger comme ça? Est-ce que Jésus est ton berger à toi? Il faut qu'il devienne ton berger. Il ne s'imposera pas. Il faut que tu l'accueilles. Ce n'est pas juste de croire. Il faut que tu l'accueilles comme ton berger, le berger de ton âme. Pas juste pour que ça aille bien de ta vie. Non, d'abord parce que tu lui dois ta vie, parce qu'il est mort à la croix pour toi, pour payer pour tes dettes envers Dieu et pour te donner le privilège de pouvoir devenir son enfant. Donc, on a vu que Dieu se sert des circonstances de notre vie pour se révéler à nous. Et les circonstances à David n'étaient pas terribles. Nous, on a une image romantique de berger. Ah, il se promenait sur les côtes, là, ensoleillé, des prés verdoyants, comme en Suisse, là, tu vois les belles images. Non, c'était pas comme ça, là. Il était à l'exclusion de la famille, il était tout seul, il était exposé au danger, au froid, aux intempéries. La responsabilité de veiller 24 sur 24, 7 jours sur 7, sur les brebis, prendre soin des brebis, c'était une tâche ingrate. Et puis, c'est pas surprenant que c'était le plus jeune qui s'est ramassé avec ça. Donc, des fois, on se dit, ah, ben moi, c'est pas pareil, Brian, moi, ma situation, c'est comme ci, c'est comme ça. Ben là, David, il aurait pu dire la même chose, non? Fait que, ça, c'était le premier message. Comment Dieu se sert de tes circonstances pour se révéler à toi dans ce que tu vis, toi? Deuxième message, on a vu que David, Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Et on a examiné qu'est-ce que ça veut dire, ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a regardé au contraire. Le contraire, c'est le roi Saül qui a précédé David et que Dieu a rejeté. Et Samuel, qui l'avait oint roi, dit maintenant, Dieu s'est trouvé un homme selon son cœur. Et qu'est-ce que Saül a fait que Dieu n'a pas aimé? C'est qu'il n'a pas fait ce que Dieu voulait, il a fait ce qu'il a voulu, lui. Et on a examiné les causes derrière ça. Il a désobéi à Dieu, oui. Mais l'acte de désobéissance, là, ça ne commence pas là. Ça commence où? Ça commence dans le cœur. Et on a vu que ce qui a poussé Saül à prendre les choses en main puis à faire ce qu'il ne devait pas faire, c'est qu'il était anxieux. Il était anxieux parce que quelque chose menaçait. Justement, c'est drôle, hein, parce que j'ai prêché là-dessus puis j'ai vécu la même affaire en semaine, quelques jours plus tard. Quelque chose le menaçait. Une armée extérieure qui est beaucoup plus forte que la sienne, il a peur. Avec raison. Mais cette peur-là le menace à tel point qu'il prend les choses en main au lieu de se tourner vers Dieu, au lieu de se fier à Dieu, s'appuyer, compter sur Dieu. Il n'a pas un cœur qui bat pour Dieu à l'origine. Voyez-vous, là? C'est pas le fait que, ah, ben là, il a désobéi. Saül, il a désobéi. David a désobéi, ben des fois aussi, on va le voir plus tard. Mais c'est pas ça, là. Saül a désobéi parce qu'il avait peur, parce que son cœur n'était pas tourné vers Dieu. Ce n'était pas un cœur qui battait pour Dieu, qui comptait sur Dieu et qui voulait à la base tout faire pour son Dieu. Et ça l'a conduit à s'appuyer non sur Dieu, mais sur lui-même. Et quand tu comptes sur toi-même, là, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir des situations qui te dépassent. Puis là, tu vas avoir tendance à dire, mais là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Parce que tu t'appuies sur tes forces à toi. Et là, tu vas prendre un pas de désobéissance. Vois-tu, là? Ça commence dans le cœur. La désobéissance, la Bible dit que c'est le fruit dans Jacques 1. C'est le fruit. L'acte ou la décision que tu prends, c'est le fruit de ce qui se passe dans le cœur. Fait que là, toute la série, c'est sur le cœur. Et vous savez que dans l'autre série, on a parlé d'une vie christocentrique versus une vie égocentrique. Bien, c'est la même chose encore. C'est la même chose. David est un homme christocentrique. Christ n'existait pas sur la terre en tant qu'homme, mais il existait dans les cieux. Il est centré sur Dieu, sur la personne de Dieu. Donc, c'est ces deux choses-là qu'on a vues. Maintenant, on arrive dans le chapitre 16 au verset 14. Et voici la phrase sommaire. Un cœur qui bat pour Dieu continue de servir humblement en attendant la gloire à venir. C'est ce qu'on va voir ce matin. Un cœur qui bat pour Dieu continue de servir humblement en attendant la gloire à venir. Donc, 1 Samuel 16, 14 à 23. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Oh, on va y revenir tantôt. Qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Oh! Encore un gros oh. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un de ses serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et de belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoyait des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils qui est avec les brebis. » Isaïe prit un homme qui chargea de pain, d'une outre de vin, d'un chevreau. Il envoyait ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. » Premier point ce matin, on a un gros problème au verset 14. Un gros problème dans la vie de Saül et un gros problème théologique aussi. Ben deux problèmes en fait. Donc, l'esprit, c'est marqué, se retire de Saül. Et le premier point, le problème qu'on a théologiquement, comment l'esprit peut se retirer de quelqu'un comme ça? Eh bien, il faut comprendre qu'il y a vraiment une distinction entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Okay? Et si vous ne faites pas cette distinction, sur plusieurs points, vous allez être confus. Mais il y a vraiment une distinction. Il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. Et c'est clair, on a déjà parlé beaucoup là-dessus, que la Nouvelle remplace l'Ancienne, OK? Remplace. Ce n'est pas un mélange des deux. Et il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans des difficultés théologiques et pratiques aussi, parce qu'ils essaient de mélanger les deux alliances. Donc, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit? L'Esprit vient sur des gens, mais il peut aussi bien partir. Okay? Dans le Nouveau Testament, c'est marqué que Jésus, l'Esprit descend sur lui, et il fait tout son ministère dans la force, la puissance du Saint-Esprit. Après ça, il dit, « Je vais vous envoyer un consolateur, un autre consolateur ou un défenseur des intérêts de mon Père, dans Jean 14, 15 à 17. Si vous m'aimez, suivez mes enseignements, et moi je demanderai au Père de vous donner un autre consolateur. » On a vu pourquoi un autre, parce que c'est lui le premier. Un autre, pas non d'une nature différente, mais un autre de nature pareille. OK? Comme j'ai une pomme, mais j'ai un autre. OK? Ça marche? « Afin qu'il reste pour toujours avec vous. » Ah ah! C'est différent. C'est nouveau, ça. Ça n'est pas arrivé dans l'Ancien Testament. Afin qu'il reste pour toujours avec vous, c'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, c'est Jésus, et il sera en vous. OK? C'est nouveau. C'est nouveau, ça. C'est la distinction. Il y a un autre passage, je me rappelle plus c'est où, c'est marqué que l'Esprit n'était pas encore donné ou venu. Okay? Dans le sens, à la Pentecôte, là, il est arrivé quelque chose de nouveau. L'Esprit venait habiter. La parole de Dieu dit que si tu crois en Jésus, tu l'as accueilli comme ton Sauveur, ton Seigneur, ton corps devient quoi? Un temple du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, hein, le temple était à Jérusalem. C'était là le temple. Vous me suivez? Là, dans le nouveau, le temple est ton corps. Le temple, c'est ton corps, si tu appartiens à Christ. Ça marche? Fait que c'est différent. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits, elle a dit, « Ben vous adorez Dieu là, nous on adore. » Il dit, « Garde, je vais te dire quelque chose, là, le temps arrive, où ce que ceux qui veulent adorer Dieu vont l'adorer en esprit, en vérité. » Ça ne sera ni ici, ni à Jérusalem. Comment ça? Parce que c'est dans le cœur. C'est ton corps qui devient un temple. Paul dit aussi dans 2 Corinthiens 1, 21-22, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint. » Ah, intéressant. Oint comment? Avec l'huile? Non, c'est oint de l'esprit. C'est Dieu lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ça veut dire comme un acompte. Celui qui est en Christ ou celle qui est en Christ, Dieu le marque comme au fer rouge. Tssst. C'est quoi cette marque-là? C'est l'esprit. C'est l'esprit. Et si tu es marqué par l'esprit au fer chaud, tu lui appartiens. C'est un preuve que tu lui appartiens. Dans la version Semeur, c'est marqué comme ceci. C'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous au Christ. Hey, c'est beau, hein? C'est vraiment beau, je répète. C'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous au Christ, unis au Christ, et qui nous a consacrés à lui par son onction, l'onction du Saint-Esprit. OK? Et c'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau comme sa propriété. Donc, marqué au fer rouge, comme un bœuf. Comme sa propriété, et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte des biens à venir. Amen. Vous n'avez pas l'air d'être convaincu. Amen. Amen. C'est nouveau, ça. Ça n'existait pas dans l'Ancien Testament, OK? Fait que mêlez pas les deux, là. Il y a des principes, oui, on peut retirer des principes de l'Ancien Testament, mais il faut prendre la théologie du Nouveau Testament et interpréter l'Ancien avec, et ne pas faire un mélange des deux. Ça marche? Les principes moraux demeurent. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, ça c'est toujours bon, là. Tu ne tueras point, c'est toujours bon, là. Les principes, Dieu n'a pas changé. Les principes moraux, les principes que Dieu tient à cœur, c'est toujours pareil. Dieu n'a pas changé. Mais sa façon d'interagir avec l'humanité a changé. Ça a tout changé à la croix. C'est pourquoi on dit que la croix, c'est le point central de l'histoire humaine. Ça marche? Donc, premier problème, l'esprit se retire de Saül. OK? Saül avait été loin de l'Éternel, l'huile, et à ce moment-là, l'Esprit était venu sur lui, mais il n'habitait pas en lui. Et là, l'Esprit se retire. Oh, gros problème. Et ce n'est pas juste un gros problème parce que l'Esprit se retire. Qu'est-ce qui se passe? On a une autre partie du problème. C'est que c'est marqué qu'un esprit mauvais venant de l'Éternel l'agitait. Le troublait. Ben, quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe là? Un mauvais esprit venant de l'Éternel? Comment ça se peut? Voyons. La Bible déclare très clairement que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Jacques dit dans Jacques 1,13 que personne, lorsqu'il est tenté, dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. OK? Dieu est lumière, nous dit Jean dans 1 Jean 1,5. Il n'y a point en lui de ténèbres. Alors, comment comprendre un mauvais esprit venant de l'Éternel qui trouble Saül, qui l'agite? Comment on comprend ça? Bien, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Job. L'histoire de Job, hein? C'est un peu la même chose. C'est un homme droit qui marche avec Dieu, est en communion avec Dieu. Et là, c'est marqué que Satan se présente devant Dieu et dit, ah, Job, hein? Ben Dieu, il dit, t'as-tu remarqué mon serviteur Job, il lance la porte, il lance la porte, Satan, et Satan l'attrape. Et Satan dit, ben oui, Job, il te sert, mais il te sert par intérêt. Il te sert pas parce que tu es le Dieu glorieux, magnifique, qui est digne de gloire. Non, non, il te sert parce qu'il sait que s'il te sert, tu vas le bénir. Il va avoir du succès dans ses affaires. Il va avoir une belle famille, une grosse maison, un gros char, un chariot. Job, dans le fond, là, il te sert, mais par intérêt. C'est pas parce qu'il t'aime, c'est pas parce que tu es glorieux et tu mérites d'être servi. Et là, Dieu dit, OK, d'accord. Mais Dieu, c'est Dieu qui a lancé la porte à Satan. As-tu vu? Il savait que Satan allait l'accuser. Et Job devient le cible de l'attaque de Satan, mais sa vraie cible, c'est Dieu. Il s'en prend à la gloire de Dieu. Et puis là, on voit que il y a toutes sortes de malheurs qui se fondent sur la vie de Job. Des esprits vont, et Satan va faire arriver une série de calamités dans la vie de Job. Mais c'est tout sous le contrôle de Dieu. Tu peux aller jusque-là, mais pas plus. Touche pas à son corps. Hein? Puis après ça, il revient, il dit, garde, tu m'as incité à faire du mal à mon serviteur, il reste fidèle. Ah, Satan dit, os pour os, hein, peau pour peau, puis laisse-moi toucher à son corps. Fait que Dieu dit, OK, je veux pas faire ça, mais OK, vas-y. Fait que là, Job, il y a plein de, hein, de serres de une maladie de la peau douloureuse, des bulles qu'il faut qu'il gratte, tout ça. Bon. Mais le point, c'est que, oui, c'est Satan qui l'attaque, mais il n'y a rien qui se passe sans que Dieu soit au contrôle. Ici, avec Saül, c'est un peu la même chose. Parce que Saül, c'est qui? C'est loin de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a mis en place. Et il règne sur le peuple de Dieu. Okay? C'est son peuple. C'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas le peuple à Saül. C'est le peuple de Dieu. Et Dieu a accepté que le peuple prenne un roi. Donc Dieu dit, OK, c'est lui. Fait que c'est le choisi de Dieu. D'accord? Satan ne peut pas faire ce qu'il veut. Parce qu'il est sous la protection de Dieu, comme Job. Mais c'est un peu comme si on restait dans le bois, puis on est dans une petite cabane à bois, puis il y a des loups. Il y a une meute de loups qui rôdent, là. On les entend hurler. On est protégé par la cabane. Okay? Mais les loups sont là pareil. Ils veulent quoi? Ils veulent manger ta peau. Qu'est-ce qui va faire que les loups peuvent te manger ou non? C'est si la cabane elle tombe à terre, malheureusement, ou si tu sors la cabane. Donc, c'est un peu la même chose ici, là. C'est que Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il y a des mauvais esprits qui se sont révoltés contre Dieu à l'origine, Satan et ses anges. Et ces esprits-là veulent ton mal, comme des loups. Mais Dieu protège. Si tu appartiens à Dieu, tu es protégé par Dieu. Et Saül, il était protégé par Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a simplement retirer sa protection. Alors, on le voit, l'Esprit de l'Éternel se retire, et là, qu'est-ce qui se passe? Un mauvais esprit arrive. Les gens disent que ça vient de l'Éternel, mais c'est indirectement. C'est parce que Dieu s'est retiré. Il a retiré sa protection et dit, OK, allez-y. Cet homme-là veut s'appuyer sur lui-même, ne veut pas de moi. Dans le fond, il se voit lui comme le roi suprême, Saül, pas moi. Et donc, je me retire. Et là, vous pouvez y aller. Comprenez-vous? En partie, mon frère. En partie, mais les ténèbres, ce n'est pas quelque chose de passif comme dans la nature. Il y a vraiment des agents actifs qui sont malins, là. Hein? C'est vrai ce que tu dis, mais c'est plus que ça. Il y a vraiment des agents malveillants. Donc, Dieu n'est pas l'auteur de mal, mais il peut permettre au mal et aux esprits mauvais de travailler, car ils n'arriveront qu'à servir à faire arriver sa volonté au final. Faites ce que vous voulez, ça ne dérange pas. Mon plan va s'accomplir. Mon plan va s'accomplir. Il n'est jamais la victime du mal, Dieu. Et vous savez comment c'est facile pour nous, en tant qu'êtres humains, de se voir comme victime. Hein? C'est victime, là, c'est que c'est pas que tu n'as pas subi ou vécu quelque chose de mal. Ça, c'est correct. On peut pas nier ça, là. C'est vrai, il arrive des choses mauvaises. Mais quand tu te vois comme victime, c'est que tu es incapable. Tu es à la merci de ces choses-là. Tu es victime, tu n'as pas le choix, tu es contrôlé par les événements. Ça, c'est victime. Dieu n'est jamais victime du mal. Il n'est jamais contrôlé, il n'est jamais mal pris. Et si tu es son enfant, là, ben toi non plus. Tu peux te voir comme une victime, mais ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Et Dieu veut guérir les blessures de ton cœur et t'amener à te voir comme lui, te voir comme son enfant bien-aimé qui est sous sa protection. Donc, un gros problème, l'esprit se retire de Saül et un mauvais esprit vient l'agacer, l'agiter, le troubler. Deuxième point, une opportunité et un test. Et tout à coup, David reçoit une invitation inattendue. Vite! Prends ta harpe et tes affaires, viens, tu vas jouer pour le roi. David, qui est loin de l'Éternel, rentre au service de celui qu'il était et de qui l'Esprit s'est retiré. Pensez-y deux minutes. Quelle situation, pas vrai? C'est comme si tu avais signé un contrat pour devenir le nouveau coach du Canadien, mais que là, on t'envoie travailler pour l'ancien, qui est toujours en poste, et que tu sais que tu vas le remplacer. Ce n'est qu'une question de temps. Mais lui ne le sait pas. Quel beau scénario d'une télésérie, n'est-ce pas? Moi, il me semble de voir, là, une télésérie basée là-dessus. Un jeune qui, lui, est signé, et le vieux, il est encore là pour l'instant, il ne sait pas. Mais le jeune le sait, lui. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le potentiel de conflit? Bien, c'est exactement ce qu'on a ici. Exactement la même chose. Je vous pose une question. Là, je vous demande d'utiliser votre imagination. Comment un jeune homme qui tout à coup reçoit un grand honneur, une position d'importance dans la société et la promesse de richesse et de gloire, pourrait-il être tenté de réagir? Qu'est-ce que ça viendrait brasser dans le cœur d'un jeune homme, tout feu, tout flamme, On dit, toi là, tu vas devenir le roi et tout ce qui vient avec là. Dieu t'a choisi. Qu'est-ce qu'il pourrait être tenté de faire? Oui, mais ça, on le voit plus tard. C'est vrai. L'orgueil, OK. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait s'en vanter à ses amis? Oh! Tu sais pas quoi, là, Samuel, il est venu. Samuel, le prophète, là. Samuel, il est venu, puis tous mes frères ont passé, mais c'est moi qui a oué. C'est moi. Tu te rends-tu compte, là? C'est moi, ton ami, là, qui va être ton roi.
On pourrait tenter d'accélérer.
Excellent, mon frère. Excellent. Accélérer les choses. Devancer, autosuffisance. Est-ce qu'il serait peut-être tenté de s'entourer d'amis et fêter jusqu'aux petites heures à tous les jours? Hey! Mon avenir est assuré. Est-ce qu'il pourrait être tenté de se livrer à des dépenses, de dépenser des sommes qu'il n'a pas, parce qu'il va l'avoir, à se livrer à des plaisirs sans limite, parce que je vais être le roi, moi? Oui? Hautain et orgueilleux, effectivement. Pensez-vous quand même il serait tenté peut-être de lever une armée et de commencer à planifier sa montée au pouvoir? Ben oui, absolument. Absolument. Écoute, c'est moi, c'est Dieu qui a décidé, c'est pas moi, là. Et là, dans tout ce contexte-là, surprise, je suis invité dans la maison du roi pour jouer pour le roi. C'est Dieu qui m'ouvre la porte pour que tranquillement, j'organise la chute de Saül et la transition de pouvoir. Garde les circonstances, là, c'est parfait. Nébouzin, c'est le temps. Dieu m'ouvre la porte. Il faut toujours faire très attention lorsqu'on veut voir dans les événements de nos vies des signes venant de Dieu. Toujours faire attention. Il est tout à fait vrai que Dieu orchestre les événements de nos vies et nous dirige souvent par elles, mais tout dépend de la disposition de ton cœur à la base. Recherches-tu vraiment sa volonté, son royaume et sa justice, ou tentes-tu de faire entrer Dieu dans ton projet, ton royaume, et que ta volonté s'accomplisse? Tout se joue dans le cœur. Ça m'est déjà arrivé d'interpréter des circonstances en ma faveur, puis de découvrir que c'était pas ça du tout, là. C'était pas ça du tout. C'est un peu honteux à vous avouer, mais je vais l'avouer. Quand j'étais jeune, j'avais fréquenté Lorraine pendant un an. On s'était cassé. C'était une mauvaise cassure. Elle est déménagée à Ottawa. Moi, je suis rentré en médecine. Bon débarras. Puis, là, je me cherchais une femme. Et là, il y avait deux ou trois belles filles dans notre église. Alors, je disais à Dieu, OK, si je sors, là, puis il y a telle fille qui est là, là, ça veut dire que c'est elle. Et là, je sortais, puis la fille, elle disparaissait. Mais là, ça veut-tu dire que c'est elle ou c'est pas elle? Ah ben, OK, c'est peut-être pas elle, c'est peut-être l'autre. OK, Seigneur, si telle affaire arrive, là, ben là, ça veut dire que ça... Puis si telle... Puis là, à un moment donné, il y en a une qui m'a confronté. Elle dit, Brent, qu'est-ce que tu fais? Je fais rien, moi. Non, elle dit... Il avait tout lu dans mon jeu, les filles. Oui. Elle dit, tu sais, autrement dit, dans d'autres mots, là, tu crouses les filles, là. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Ouais. Je cherchais à faire entrer Dieu dans mon plan à moi et j'interprétais des choses à ma faveur. Donc, c'est dangereux de faire ça. Mais tout cela, tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'un jeune homme serait tenté de faire face à une gloire, une avenir, richesse, pouvoir extraordinaire, tout ce à quoi il serait tenté de faire, tout cela brille par son absence chez David. Pas vrai? C'est incroyable. C'est pas le cas, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'on voit quand David, après que David, il est oint roi, puis que les hommes de Saül disent, on a vu quelqu'un, là, il est vraiment habile, puis il est vraiment beau, puis tout ça, puis il parle bien. Il est où, David? Après que Saül l'ait oint roi, là, il est où? Il est retourné d'un champ? Il est encore en train de prendre soin des brebis. Verset 19, Saül envoyait des messagers pour dire à Isaïe, pour lui dire, « Écoute, envoie-moi David, ton fils qui est avec les brebis. » Il est retourné prendre soin des brebis. Wow! Il aurait pu dire, « T'es un peu papa, là. Hey, t'as pas vu? C'est moi que Samuel a loin, là. Je pourrais être roi, là. Non, c'est pas vrai que je vais retourner prendre soin de tes brebis, là. Puis en passant, tu me dois allégeance. » Parce que c'est moi le roi maintenant. Non, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bâtir son royaume? Avancer sa cause? Non. Il est en train de prendre soin des brebis de son père encore. Et maintenant, on l'invite à venir jouer de son instrument pour bénir et soulager un roi que Dieu a rejeté, qui sait qu'il va remplacer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le fait. Et non seulement il le fait, mais il le fait de façon efficace. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue de la harpe. Probablement qu'il doit chanter. Et lorsque David prend la harpe et joue de sa main, qu'est-ce qui se passe? Verset 23, Saül respire plus à l'aise, se trouve soulagé, et le mauvais esprit se retire de lui. Wow! Parenthèse, en passant, les mauvais esprits, incluant leur chef Satan, détestent la louange. Ils ne peuvent la supporter. C'est une des raisons pourquoi la parole nous enjoint tant de fois à passer nos jours, tous nos moments, dans la louange. La première raison, bien sûr, c'est parce que Dieu en est digne. Il le mérite suprêmement. Mais un des grands bénéfices secondaires, c'est que l'ennemi ne peut pas tenir devant la louange poussée par l'Esprit. Et là, je fais une distinction. Tu peux chanter des louanges, mais juste chanter sans que ça soit poussé par l'Esprit. Mais la louange est une puissante arme contre l'ennemi. David dit dans le psaume 18, verset 4, « Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. » On le voit dans l'histoire de Jéricho aussi, hein, quand l'armée d'Israël faisait le tour avec, en avant, sept prêtres qui sonnaient des trompettes devant l'arche de l'Éternel pour louer l'Éternel. Mais encore là, attention, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas « Chante des louanges, puis tu n'auras pas de problème. » Pardon. « Tu auras beau chanter de ta belle voix, de toutes tes forces, si tu n'es pas soumise à Dieu, si tu n'as pas cédé ta vie au Seigneur Jésus pour qu'il soit le maître de ta vie, ou si tu cherches ta propre volonté en vivant une vie égocentrique, toutes les paroles de tous les chants tomberont par terre et ne feront aucunement fuir l'ennemi. » C'est des louanges poussées par l'Esprit qui repoussent l'ennemi. Et l'Esprit doit habiter, remplir et contrôler le temple qui lui appartient. OK? Donc, on revient à David. Qu'est-ce qu'on voit ici de son cœur? On voit un cœur qui bat pour Dieu, qui ne se soucie pas de sa propre gloire, même s'il sait qu'il l'aura un jour, il continue à faire quoi? Ce qu'il a toujours fait, servir humblement en attendant la gloire à venir. Il ne se concentre pas sur lui-même et sur son avenir, mais sur Dieu, l'adorer et le servir maintenant. Voyez-vous le piège, hein? Souvent on tombe dans ce piège-là, toi et moi, là. C'est qu'on est tellement focussé sur l'avenir qu'on on oublie le présent, on oublie d'adorer et de servir Dieu maintenant, dans le présent. Es-tu pris dans ce piège-là? Es-tu préoccupé beaucoup avec l'avenir? Tellement à tel point que tu ne sers plus Dieu vraiment là, dans le présent. C'est un piège qui nous guette tous. J'aime particulièrement cette petite phrase de Paul dans Romains 1:9 où il écrit « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. » Puis, David, il continue de servir Dieu dans son esprit, de servir humblement en attendant ce qui va venir. Écoutez, David, là, il n'est pas juste là à jouer. OK, on m'a demandé de venir jouer, là. OK, ouais, c'est Saül, on sait bien que l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. C'est moi qui vais être le roi, mais il faut bien que je joue pour lui, là, pour le soulager. Fait que je joue. Non. Non. Qu'est-ce qu'on réalise en examinant ce passage-là? C'est que David, il a juste continué à faire, comme ma sœur a dit, tout ce qu'il faisait avant. Qu'est-ce qu'il faisait avant dans les champs? Il louait Dieu de tout son cœur. Il louait Dieu, il adorait Dieu. Et là, il continue. Son focus, ce n'est pas Saül. Son focus, c'est qui? C'est Dieu. Et il loue Dieu de tout son cœur. Et par le fait même, ben, l'esprit ne peut pas tenir, l'esprit mauvais ne peut pas tenir devant louange poussée par l'Esprit de Dieu. Et l'esprit mauvais s'en va. Donc, David exerce son rôle, son don, par l'Esprit de Dieu. Et en passant, on a vu que lorsque Samuel l'a oint, au verset 13, lorsqu'il l'oint au milieu de ses frères, qu'est-ce qui arrive? L'Esprit de Dieu saisit David dès ce jour et dans la suite. Fait que David est assis dans la cour de Saül. Il n'est pas focusé sur son avenir. Il n'est pas focusé sur le roi Saül. Il est focusé sur Dieu. Il adore Dieu. Il continue à faire ce qu'il était exercé à faire. Hein? Ça, c'est un principe qu'on a vu beaucoup dans des années passées ici à l'Église. Ce à quoi tu es exercé à faire va sortir lorsque les situations sont difficiles ou lorsque ta situation change. David était exercé, il s'exerçait à louer et adorer Dieu. Son cœur battait pour Dieu. Et maintenant que la situation a changé, il pourrait être tenté de devancer les choses, d'accélérer les choses, de tout ça. Non. Il pourrait être tenté de mépriser Saül. Non. Son focus n'est pas là. Son focus est toujours adorer Dieu. Oui, Robert. Oui, exact. Si on s'exerce aux mauvaises choses, ça va sortir. Donc, on voit que David ne jouait pas pour Saül au final, mais pour son Dieu. Il continuait simplement de faire ce qu'il avait toujours fait, à adorer et louer son berger. C'est l'exemple suprême. Non, pardon. C'est un exemple merveilleux d'un cœur qui bat pour Dieu. Mais l'exemple suprême d'un cœur qui bat pour Dieu et qui le sert en attendant la gloire, c'est évidemment qui? Notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui, Jésus, il était le roi d'Israël, qui allait régner non seulement sur Israël, mais sur le monde entier. Mais qu'a-t-il dit? Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Wow! Wow! Et tout ce que Jésus a fait était fait dans un acte d'adoration. Jésus était constamment en train d'adorer et louer son Père. Constamment, son cœur battait pour son Père. Constamment, son cœur était en communication avec son Père dans tout ce qu'il faisait. Et toi? Et moi? Qu'en est-il? Sommes-nous comme David? Sommes-nous comme Paul qui sert Dieu dans son esprit? Sommes-nous comme Jésus? Avons-nous ce cœur qui bat pour Dieu, qui est dans l'adoration continuelle? Cherches-tu à établir ton royaume ou celui de Jésus? Recherches-tu ta propre gloire ou celle du Christ? Es-tu tombé dans le piège de te concentrer davantage sur ton avenir que sur le berger de ton âme? Comment servir humblement en attendant la gloire que Dieu t'a promise? Comment avoir ce cœur tourné vers Dieu, centré sur Dieu, qui adore Dieu en tout moment, en chaque circonstance? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce que Dieu voudrait changer pour que tu ressembles plus à David, plus à Paul, plus à Jésus? À quoi ressemblerait ta vie, ton service, si, au lieu de te concentrer sur ton service, ou même sur les gens que tu sers, ou leur appréciation de ce que tu fais, tu faisais tout simplement un geste d'adoration pour le Dieu qui occupe le centre de ton affection, de ton adoration? Pourquoi? Parce qu'il s'est donné pour toi à la croix. Qu'est-ce que ça changerait dans ton travail? Ce matin, on parlait, Robert et moi, puis on est tous un peu pareils. Hein? Pour les choses de Dieu, OK, faut que je dépende de Dieu, puis encore. Mais pour mes affaires à moi, là, ben c'est moi qui s'en occupe. Fait qu'on fait comme une distinction entre les choses de Dieu, les choses sacrées, si on veut, et les choses profanes. C'est faux. C'est pas le cas de David. David, il n'est pas dans le temple. Il est où? Il est dans le champ, en train de faire son travail. Il est où? Il est dans la cour du roi qui va remplacer. Il sert Dieu dans son esprit. Il adore Dieu dans son esprit. Il dépend de Dieu dans tout. Il n'y a pas de compartimentalisation. Il n'y a pas de compartiment, là. Et souvent, toi et moi, ce qu'on fait, on compartimentalise. On met des choses dans des compartiments. Oh, ça, c'est les choses de Dieu. Et ça, c'est mes affaires à moi. Mon travail, mes problèmes, mes relations, tout ça. Non, il n'y en a pas de compartiment. Dieu est Dieu sur toute ta vie. Il est Dieu de tout. Ou il n'est pas Dieu du tout. Si Dieu n'est pas le Dieu de toute ta vie, il n'est pas Dieu du tout. On n'est pas ici dans une religion où ce qu'on vient faire telle et telle chose pour plaire à Dieu, puis la semaine, ben, on s'occupe de nos affaires. Puis puisque j'ai été faire ce que Dieu voulait, maintenant Dieu va me bénir. Comme disait Satan. Ça, c'est la théologie de Satan. À quoi ressemblerait ta vie, ton service, ton travail, ta famille et même ton service dans l'Église si vraiment ton cœur était à 100% toujours en adoration vers Dieu? À quoi ressemblerait cette Église si chacun de nous, on servait Dieu d'un cœur humble, un cœur reconnaissant, un cœur qui est centré sur lui, un cœur qui bat pour Jésus? Je vais terminer en lisant un passage dans Philippiens 2. Faites juste écouter. Philippiens 2. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur, il s'est rendu semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.